Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. C'est une des conséquences du réchauffement climatique. De nouvelles voies maritimes s'ouvrent au pôle Nord et elles attisent les appétits des grandes puissances. Cette route entre l'Europe et l'Asie contourne désormais la Russie par le Nord. Un trajet jusqu'à 2 semaines plus court que le traditionnel itinéraire empruntant le canal de Suez. Benoît Derrier.
C'est un porte-conteneur danois rempli de poissons congelés et de produits électroniques sud-coréens qui est arrivé jeudi 27 septembre dans le port de Saint-Pétersbourg, en provenance de Vladivostok, à l'extrême est de la Russie. L'immense vaisseau flambant neuf, baptisé Vantamersk, long de 200 mètres et pouvant transporter jusqu'à 3600 conteneurs, a effectué le trajet en tout juste 5 semaines, soit 2 de moins que par le traditionnel itinéraire empruntant le canal de Suez. C'est une première pour un bateau de cette taille. Mais l'armateur danois Maersk, première compagnie maritime mondiale, précise qu'il s'agissait d'un test unique permettant d'étudier la faisabilité du trajet et de recueillir des données scientifiques. Quoi qu'il en soit, la Russie prévoit d'investir dans les 2 prochaines années plus de 500 millions d'euros dans son développement en construisant des ports et des brise-glaces nucléaires pour escorter les bateaux. Car outre le détroit de Bering entre Russie et Amérique du Nord, cette route passe par la péninsule de Yamal en Sibérie occidentale, qui abrite les plus importantes réserves de gaz russe. Depuis 2017, le français Total y achemine des méthaniers jusqu'en Europe occidentale. Outre le fait d'être plus court, ce nouvel itinéraire maritime présente l'avantage d'un risque réduit de piraterie. Mais les défenseurs de l'environnement craignent des marées noires dans un écosystème encore préservé. Jusqu'à présent, l'itinéraire qui longe les côtes septentrionales de la Russie n'était libéré des glaces que quelques semaines par an. Mais cette période tend à s'allonger de manière significative avec la fonte des glaces, allant aujourd'hui de juillet à octobre. En quelques décennies, la calotte glaciaire a perdu près de la moitié de sa surface et il a fait presque 30 degrés au nord de la Sibérie cet été. Certains experts estiment que ce nouveau couloir maritime pourrait être praticable 365 jours par an dès 2050.
Dans les années 70, c'était la mécanisation massive. Aujourd'hui, l'agriculture et en particulier la culture de la vigne vit une seconde révolution, celle du numérique. Robots, drones, capteurs, les nouvelles technologies sont partout. Pas le choix, les agriculteurs européens doivent continuer à produire en maîtrisant les coûts de production et en limitant en même temps l'impact sur l'environnement. Dans le Bordelais, le groupe Bernard Magret, propriétaire de 4 grands crus, dont le château Pape Clément, Fombroges et la tour Carnet, en a fait un vecteur de croissance et de recherche. Et c'est le reportage de Frédéric Lebel sur place.
Donc ça y est, là on est dans le vrai, hein. Le raisin est arrivé par cagette, vendange à la main. Toutes les cagettes sont là-bas, elles sont arrivées il y a quelques minutes et l'idée maintenant c'est un compte à rebours. Voilà, il faut les égrainer manuellement, enlever les rafles, les trier, les mettre dans les petits cuvons et après les envoyer directement dans les grandes cuves. Et là, on a un chariot élévateur qui est là pour gagner du temps et voilà.
C'est le prix de l'excellence. La vendange et le tri du raisin se font encore à la main à Pape Clément. 500 personnes embauchées pour la saison dans les 4 châteaux du groupe, mais peut-être plus pour très longtemps. Arnaud Delaherche, chargé de la recherche et du développement chez Bernard Magret.
C'est un des plus grands œnologues qui disait qu'est-ce qui ressemble plus à un raisin qu'un raisin, quoi. À l'œil nu, aujourd'hui, on n'arrive pas à différencier finement l'intensité colorique d'un raisin et sa capacité à produire de l'alcool ou sa concentration en sucre. Et donc on a besoin d'outils comme des capteurs qui nous permettraient de quantifier les anthocyanes, la charge en sucre.
Dès la récolte.
Ouais, dès la récolte, exactement, ouais, pour faire du top, top qualité. Quand vous voulez faire un vin d'exception, vous devez avoir les meilleurs raisins.
Dans 1 heure, pas plus, les raisins seront transformés en jus.
Donc là, on va aller voir les capteurs, donc ils sont installés dans le chai à rouge.
À quelques pas de là, les nouvelles technologies ont déjà fait leur entrée dans les fûts. Des capteurs, dernière génération, pour éviter tout accident pendant cette période très délicate qu'est la fermentation.
Il y a une notion qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est le raisin qui dicte sa loi. Mais un grand cru, c'est un ensemble de détails. Donc on a des centaines et des centaines de paramètres à suivre. Donc l'idée, c'est on travaille avec une société qui travaille sur des capteurs bien spécifiques qu'on met directement dans la barrique ou dans le contenant. Et en fait, on suit l'évolution du vin dans le temps avec ces capteurs-là. Comme ça, on ne perd pas de temps à déposer les échantillons et surtout, on ne consomme pas de vin inutilement pour faire deux analyses.
Et les données sont directement envoyées sur un serveur.
Ouais, exactement, ouais. C'est envoyé sur un serveur. Donc ça, c'est la prochaine étape, hein, envoyer ça sur notre serveur. Et comme ça, le matin, le directeur du château arrive, ou l'œnologue qui suit la qualité des vins, il se connecte directement et il voit l'évolution dans le temps de son vin.
Donc, mais ça, c'est une valise de transport. Et alors, le montage, il est très, très simple.
En 2013, le vignoble de Bernard Magret a été un des premiers à investir dans un drone. Il fallait alors débourser 50 000 euros pour un engin qui n'avait qu'un quart d'heure d'autonomie. Aujourd'hui, l'engin s'est considérablement démocratisé et modernisé. 1 500 euros pour une heure d'autonomie.
Voilà, donc ça y est, le drone est monté.
Aujourd'hui, vous voyez, on a par exemple ici à Fontbrauges, on a 60 hectares à survoler. Déterminer le nombre de pieds manquants et la localisation, ça prend un temps considérable. Vous allez sur en moyenne 6500 à 7000 pieds à l'hectare, vous en avez toujours quelques dizaines qui meurent, qui ont pris le gel, des maladies, de vieillesse. Après, on a des cartes de topographie, c'est-à-dire que la vigne n'aime pas l'eau, les eaux stagnantes et tout ça. Donc on doit drainer nos vignobles. Et donc avec ces cartes de topographie, on draine les vignobles et on arrive à évacuer l'eau. Donc ça, c'est une avancée importante. Et puis après, effectivement, il y a tout le travail sur les maladies. Hein, maladies, détection du mildiou, récemment détection de l'ESCA. Et le drone, le robot, les stations météo, les radars que l'on a, c'est des outils d'aide à la décision.
Moins de personnel pour ausculter le domaine, moins de produits chimiques, moins d'ouvriers pour travailler le sol, cavaillonner, entretenir les pieds de vigne, désherber entre les rangées. Voilà les multiples tâches du dernier locataire dans le hangar de Château Fontbrauges, le robot Ted. Ted se manie comme une voiture télécommandée et fait tout, ou presque, dans le travail de la terre. Mais son prix, 150 000 euros, n'est pas à la portée de tous les châteaux.
Donc Ted, c'est 800 kilos d'engineering. Ça, c'est le dernier né. Donc pour utiliser Ted, il faut cartographier les parcelles avec un drone. Donc l'intérêt du robot, c'est d'installer des outils. Et c'est surtout d'assurer des tâches qui prennent beaucoup de temps, qui nécessitent du personnel. Et dans un futur proche, c'est d'avoir plusieurs robots. Et d'avoir une personne qui manage différents robots et qui lance les robots sur plusieurs parcelles, par exemple.
L'idéal, de le mettre en début de rang.
Ouais. TED a été élaboré par une start-up française. Elles sont une dizaine à travailler sur des projets avec le groupe. Mais pour l'instant, personne n'a réussi à développer l'algorithme qui sera taillé de manière unique et intuitive chaque pied de vigne et permettre une maturité homogène des raisins grâce au soleil. Le soleil, justement, il en est beaucoup question à la Tour Carnet. Le réchauffement climatique, ce n'est ni demain ni après-demain, c'est aujourd'hui. Alix Combe, directeur du château, a déjà vu comment le cépage de la région, le Merlot, a évolué.
Il y a quelques années de ça, une vingtaine d'années, les degrés alcooliques produits par les raisins étaient beaucoup plus faibles que ça, donc on rajoutait un petit peu de sucre par chaptalisation pour remonter les degrés. Depuis 10 ou 15 ans, on rajoute quasiment plus jamais de sucre. Mais par contre, on est obligé d'attendre la maturité des tanins et des arômes pour pouvoir ramasser. Et on s'aperçoit que lorsqu'on atteint cette maturité-là, la maturité et la richesse en sucre, elle peut monter à 15,5, 16, parfois plus. Et donc, ça veut dire que le Merlot sera peut-être pas d'ici quelques temps, si le réchauffement climatique continue, le cépage le plus adapté à Bordeaux.
Sur une parcelle, 75 cépages différents ont donc été plantés. Là encore, on veut étudier scientifiquement leur évolution, leur adaptation au terroir, voir qui résiste aux coups de gel dévastateurs d'avril-mai. Séance de dégustation un peu sauvage des premiers échantillons. Alix Combe a déjà une petite idée des cépages qui pourraient être intéressants dans 20 ou 30 ans.
J'attends qu'on ramasse surtout les cépages qu'on a plantés et qu'on a choisis comme venant du sud. Parce que là, dans notre collection, on a des cépages portugais, des cépages espagnols, deux cépages italiens, un cépage corse. On a tous les cépages qui sont utilisés dans le sud de la France. On est intéressé par les cépages d'Europe du Sud parce qu'ils viennent de climats plus chauds. Donc ça nous intéresse de voir si le réchauffement climatique augmente. Tout le monde dit le Sahara va remonter jusqu'au sud de l'Espagne, et ainsi de suite. Et donc les cépages portugais pourraient revenir jusqu'à Bordeaux. Ils sont issus d'un climat océanique, le même que Bordeaux, mais plus chaud. Donc ils ont une habitude à l'humidité, etc., qui souvent entraîne mildiou, oïdium et autres maladies de la vigne. Et deuxièmement, les vins portugais aujourd'hui ont des structures tanniques, ont de la couleur, c'est-à-dire ce qu'on recherche aujourd'hui dans les vins de Bordeaux. Restera à étudier évidemment la typicité et le goût de chaque cépage, mais à première vue comme ça, on n'a pas encore les résultats de l'expérimentation, mais à première vue, c'est des cépages sur lesquels on a une très forte attention.
Oui, des notes de pamplemousse, alors fermentaire, oui, mais derrière...
Ça ressemble plus au Sauvignon blanc et à ce que nous, on a l'habitude de goûter.
Ouais. Des cépages du Portugal, mais aussi de Géorgie.
Déjà, la Géorgie, c'est le berceau de la viticulture. On a trouvé il y a 6000 ans avant Jésus-Christ des traces de transformation de raisins en vin. Donc c'est vraiment là où les premiers hommes ont commencé à faire du vin. Donc c'est historiquement pour la viticulture, c'est un point de départ. Et puis dans cette région de l'Europe, on fait des vins exceptionnels avec des tanins soyeux, des couleurs assez intéressantes. Donc c'est des cépages qualitatifs qui ont passé la sélection naturelle. Donc c'est aussi voilà pourquoi ces cépages-là n'auraient pas un rôle à jouer dans la viticulture de demain, sachant qu'ils ont toujours été là, quoi.
En attendant cette nouvelle cuvée européenne, le millésime 2018 se vend en bouteille scellée avec un QR code à scanner pour informer et garantir au client l'authenticité de son vin.
Sur la plaine, au grand blé mouvant, l'éclair des épées.
Les préparatifs s'accélèrent en France à l'approche du 11 novembre qui marque les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Plus de 60 chefs d'État et de gouvernement assisteront à Paris au centenaire de l'armistice. Outre Vladimir Poutine, Donald Trump ou encore Angela Merkel, Theresa May sera aussi présente car les Britanniques ont payé, comme les Français, un lourd tribut pendant cette guerre de 14-18. Alors en ligne de Londres, on retrouve Marina Daras. Bonjour.
Bonjour.
Marina, dites-nous comment on vit ce centenaire au Royaume-Uni.
Alors au Royaume-Uni, on aime beaucoup les célébrations et les cérémonies officielles. Et commémorer le 11 novembre, c'est quelque chose qui est assez ancré dans la culture britannique. Vous avez sans doute déjà remarqué qu'à l'approche du mois de novembre, les Britanniques portent des petites fleurs rouges en badge sur leur manteau. Les poppies, ce sont des coquelicots qui sont vendus par des vétérans un peu partout à travers le pays et qui se portent en signe commémoratif en hommage aux soldats tombés pendant la guerre. Pourquoi le coquelicot? Eh bien parce que ce sont les fleurs qui ont recouvert les champs de bataille une fois la guerre terminée. En 2014, pour commémorer le début de la Grande Guerre, l'artiste Paul Cummins avait d'ailleurs recouvert les douves de l'emblématique Tour de Londres d'une mer de coquelicots, symbole du sang versé pour protéger la patrie.
La Grande Guerre est d'ailleurs un sujet qui est très très présent dans le monde de l'art britannique.
Oui, tout au long de ces commémorations qui ont débuté dès 2014 pour le centenaire du début de la guerre, il y a eu des centaines d'installations et d'expositions sur la Grande Guerre à travers le pays. Mais c'est surtout la télévision et le monde du cinéma qui aiment revisiter à de tout temps cette période. Je pense notamment à la fameuse série télévisée Downton Abbey. Et cette année, c'est le film de Peter Jackson qui passionne les foules. Jackson a restauré et colorisé près de 100 heures d'images d'archives pour en faire un documentaire de 90 minutes sur la Grande Guerre.
Même si tous les pays d'Europe ont été fortement touchée par cette guerre, elle a particulièrement affaibli la Grande-Bretagne, Marina.
Oui, effectivement, le Royaume-Uni faisait partie des alliés qui sont sortis vainqueurs de la guerre, mais finalement, les pertes ont été énormes. D'une part, la dette du Royaume-Uni, après 4 ans d'efforts de guerre, était au plus haut, et le pays en est sorti complètement ruiné. Et d'autre part, les pertes humaines ont plombé le Royaume et son empire. 6 millions de personnes ont été mobilisées, près de 700 000 sont mortes, et des centaines de milliers sont revenus gravement blessés. Beaucoup d'historiens pensent que l'Empire britannique, qui a été achevé par la Seconde Guerre mondiale, a commencé à sérieusement battre de l'aile dès la fin de la Première Guerre mondiale, à vrai dire dès la bataille de la Somme. C'est cette bataille qui est le symbole du poids de la guerre du côté anglais. Beaucoup de Britanniques, dont les soldats de l'ancien empire, y sont tombés, près de 420 000 et très peu ont été rapatriés. On se souvient d'ailleurs l'hommage rendu en 2016 par David Cameron, accompagné du prince Charles, de son épouse Camilla, ainsi que de William, Kate et Harry, au mémorial de Thiepval pour commémorer le centenaire de l'offensive de la Somme.
Marina Daras, l'une de nos correspondantes au Royaume-Uni.
I'm the Antic Town Crier and I've got a special offer for you today with Saturn's Radio.
Oyez, oyez, des annonces pour attirer le chaland, une tradition remise au goût du jour pour lutter contre la désertification des centres-villes. L'an dernier, près de 6000 commerces ont fermé leurs portes dans les high streets britanniques, ces grandes rues au cœur des villes et villages. L'essor de la vente en ligne, 18% des ventes au détail selon le Financial Times, menace de plus en plus ces commerces. Alors pourquoi faire appel aux crieurs de rue? Les précisions de Marie Billon.
Avec son chapeau à plumes, sa chemise à jabot et ses bottes à l'ancienne, ce crieur public n'a pas l'air d'être le promoteur idéal pour un pub moderne et branché. Et pourtant, c'est pour Sutton Radio, dans le quartier de Lewisham à l'est de Londres, qu'il secoue sa cloche. Ce vestige des anciens temps attire le chaland en vantant les mérites de l'établissement, en annonçant quelles bières artisanales sont disponibles cette semaine ou quel est le plat du jour. Encore un truc de bobo, direz-vous ? Que nenni ! Le crieur public fait son grand retour. Il bénéficie d'un regain de popularité grâce au mariage princier et d'essence royale ces dernières années, du folklore qui se transforme en utilité publique. Plus de 150 villes à travers le Royaume-Uni ont embauché leur crieur public pour redonner vie à leurs grandes rues, pour attirer les touristes et pour promouvoir le petit commerce. Généralement, ce sont les autorités locales qui embauchent et les commerçants qui se prêtent le crieur. Salisbury fait partie de ces endroits qui ont sauté sur l'occasion. La petite ville du sud-ouest de l'Angleterre, qui bénéficiait de sa proximité avec le site néolithique de Stonehenge et sa fameuse cathédrale médiévale, a connu une baisse brutale de la fréquentation depuis l'attaque à l'agent énervant contre un ex-agent russe et sa fille qui a coûté la vie à une locale en début d'été. Une compétition a été organisée à Salisbury et c'est un riverain à la voix qui porte qui a été sélectionné. Alors son record n'a pas été publié, mais certains crieurs atteignent les 114 décibels, plus fort que le bruit d'un jet qui décollerait à moins de 300 mètres, précise le journal The Times. De quoi attirer l'attention même de ceux qui marchent avec la musique à fond dans les oreilles.
Les commerces, donc obligés de faire leur révolution, crieurs de rue pour les Britanniques, adaptation à une nouvelle clientèle pour les Néerlandais. Ainsi, un supermarché a décidé une heure par semaine de faire le silence total pour permettre aux clients autistes de faire leurs courses. Antoine Moutou.
Pas d'annonce au haut-parleur, pas de bip en caisse et encore moins de musique. Chaque mardi matin entre 8 et 9 heures, le supermarché Albertine de Sint-Michielsrestel, près de Bois-le-Duc, tente le silence complet. L'objectif, permettre aux clients atteints d'autisme, particulièrement sensibles au bruit, de faire leurs courses en toute sérénité. Un premier test a eu lieu fin septembre et désormais de nombreux autres magasins de l'enseigne pourraient suivre. Outre la publicité gratuite pour les supermarchés Albertine, qui se donne ainsi l'image d'une société tolérante et inclusive, une initiative qui répond aussi à une véritable nécessité. Le supermarché de Sint-Michielsrestel se trouve à quelques pas seulement de Kentalis, un grand complexe d'accompagnement, d'enseignement et de soins réservé aux personnes dites déficientes sensorielles, c'est-à-dire qui souffrent d'autisme ou par exemple de handicap auditif ou de la parole. Nombre des clients du supermarché sont donc atteints d'autisme et jusque-là pour eux faire les courses constituait une véritable épreuve. Perturbés par le vacarme habituel des supermarchés, mais aussi par de simples obstacles, comme un chariot au milieu du passage, certains d'entre eux avaient même fini par éviter les lieux. L'Organisation néerlandaise pour l'autisme salue l'initiative de ce supermarché. Elle espère désormais que beaucoup d'autres suivront l'exemple.
Françoise Grelot était à la réalisation. Alors pour nous suivre, rendez-vous sur RFI.fr et sur notre page Facebook. Vous pourrez y retrouver notamment l'excellent diaporama sonore de Frédéric Lebel.